on parle politique avec Vincent Gosselin.
Tout le monde, s'il vous plaît. Ah, main sur le cœur.
God save the king.
La reine est morte. Vive le roi.
God save the king. C'est ce qu'on chante maintenant du côté de la monarchie britannique. Et on va en parler avec Vincent Gosselin. Salut Vincent.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Ça a été confirmé ce week-end, le couronnement de Charles III, nouveau roi de cette monarchie.
Nouveau roi officiellement couronné parce qu'il est roi depuis le 8 septembre. Oui. Au moment où sa mère est décédée, Charles est devenu roi, mais on attend plusieurs mois avant le couronnement. Et quand on a regardé la cérémonie, on comprend pourquoi cette cérémonie de couronnement à grand déploiement. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée.
Oui, je l'ai écoutée.
Samedi.
Oui. Ouais. Ben, ça arrive une fois dans une vie ou presque, oui, donc on prend pas le risque vu qu'ils vivent vieux, eux autres.
Vous l'enregistrez sur cassette.
c'est assez grandiose, c'est toujours impressionnant.
C'est le cas de le dire. Événement mondial, déploiement mondial quand même. Et Charles a 74 ans, il est le prince héritier qui a attendu le plus longtemps, 70 ans, hein, la durée du règne de sa mère Élisabeth. Mm-hmm. C'est un moment historique parce que pour plusieurs qui avons moins de 70 ans, c'est la première fois que ça arrive à vie. Mais surtout, c'est une page d'histoire qui se tourne. Après un si long règne de la part d'une monarque, troisième femme à diriger le Commonwealth et le Royaume-Uni, plusieurs questions se posent, à savoir, est-ce que Charles sera un peu plus réformiste, un peu plus moderne? Est-ce que Charles donnera à la monarchie un nouveau jour ou sera-t-il simplement un roi de transition? Parce qu'il est assez âgé par rapport à sa mère quand elle est devenue reine toute jeune. Et celui qui attire un peu plus de frénésie, c'est William. William et Kate, oui. Qui, eux, éventuellement, deviendront le couple royal dans quelques décennies éventuellement, c'est également... Bon, cette cérémonie qui est la première depuis 70 ans. Alors, évidemment qu'il y avait des premières, évidemment qu'il y avait des changements. La télé est en noir et blanc, là, il y a 70 ans. Oui. Cette cérémonie qui sortait un peu de l'ordinaire sur certains points, qui est un peu plus moderne également.
Beaucoup plus, ouverte sur le monde aussi, parce qu'il n'y avait pas que des catholiques, même si c'était à l'église. Là, il y avait aussi des chants grecs, des chants de toutes sortes d'autres langues, des nationalités différentes aussi.
Ben exactement, oui. Puis d'ailleurs, c'est important, tu le soulignes, c'est une cérémonie religieuse, ce qu'on a vu. Mm-hmm. Parce que Charles devient le chef de l'église anglicane. Alors, c'est aussi une fonction religieuse importante au Royaume-Uni. Mais oui,
c'est une cérémonie...
C'est le pape des Anglicans, oui. L'équivalent, là, en effet, parce qu'il reçoit ses pouvoirs de Dieu, selon ce qu'on raconte dans la tradition. Donc oui, cérémonie plus ouverte sur le monde également, et cérémonie importante pour le Canada. Ça, c'est inévitable, parce que le roi est aussi roi du Canada, chef d'État de l'État canadien. Alors, M. Trudeau était là, la gouverneure générale Mary Simon était là également, et à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, ça fait soulever la question, est-ce que la monarchie est encore nécessaire au Canada? Mais depuis le décès de la reine Élisabeth, ces questions-là se soulèvent également au Royaume-Uni, où on a vu en fin de semaine, durant la cérémonie, des républicains britanniques qui scandaient « ce n'est pas mon roi ». Il y a eu des arrestations, d'ailleurs, de la part de la police, ce qui a fait dire à Human Rights Watch que c'était des scènes dignes de Moscou, mais pas de Londres. C'est peut-être ce qui est venu assombrir une partie de la cérémonie, à l'extérieur du moins. Les voix républicaines s'élèvent de plus en plus au Royaume-Uni. Et ça, c'est relativement nouveau. Oui, on a toujours eu un certain mouvement républicain qui voudrait se départir.
Mais c'est surtout qu'en même temps, il faut l'avouer, le roi n'a aucun pouvoir politique. Là. Il est juste là, c'est une potiche, il faut le dire.
Un rôle honorifique, un rôle symbolique, qui, qui est important. C'est un rôle de chef d'État. Donc, cette fonction honorifique doit être assumée par quelqu'un. Si ce n'est pas un roi, c'est peut-être un président dans une république qui va avoir plus de pouvoir parce qu'il est élu ou parce qu'il est élu par la chambre d'assemblée. Une fonction de chef d'État, il faut comprendre que c'est important. D'abord, pour la sanction royale, ce qu'on a en ce moment, c'est la signature des lois. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre que le chef du gouvernement qui signe les lois. Donc, c'est une fonction qui est cruciale au bon déroulement de l'État, mais qui politiquement, comme tu le dis, n'a pas d'importance partisane ou politique ou sur le plan des prises de décision. Mais sur le plan, c'est symbolique, oui, mais c'est aussi honorifique. Et c'est surtout un rôle très protocolaire qui est important dans certaines circonstances, en temps d'instabilité. Le Royaume-Uni a souvent changé de premier ministre. Et si jamais l'opposition en gouvernement minoritaire renverse un gouvernement, c'est au roi ou au gouverneur général, dans le cas du Commonwealth, qu'on s'adresse pour prendre la place au gouvernement, à la Chambre des communes.
Oui, exactement.
Ouais.
Mm-hmm. Ah, puis il n'y a pas aussi dans le cas aussi de grandes catastrophes, s'il arriverait quelque chose, comme tu viens de dire, au Parlement, une attaque du terroriste, et dans ce temps-là, c'est ce que j'avais entendu, que la royauté pouvait prendre le contrôle pendant un certain temps, advenant ces problèmes-là.
Ben exactement, le chef de l'État pourrait diriger pendant ces temps d'instabilité, et l'argument pro-monarchie, c'est souvent que les monarchies constitutionnelles, celles qui ont un roi ou une reine, un monarque un peu plus honorifique comme on a, mais un parlement démocratique qui fonctionne, il y en a encore plein en Europe. Là. Beaucoup de pays scandinaves, à part la Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Espagne est encore... les Pays-Bas sont encore une monarchie, la Belgique, etc. Et ça fait des démocraties assez stables, parce que justement, il y a un chef d'État un peu en dehors de la joute politique, qui ne dépend pas d'une élection quelconque, mais qui se mêle pas de la politique autrement, mais qui est là pour assurer une stabilité, alors que le gouvernement peut changer sans que l'État soit déstabilisé. Ça, c'est l'argument pro-monarchie qui revient souvent quand on parle de monarchie constitutionnelle. Évidemment que ce n'est pas une monarchie arbitraire puis dictatoriale, comme on a par exemple encore au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde.
Pose beaucoup de questions justement sur l'utilité de la monarchie dans les pays du Commonwealth. On sait que dans certains pays des Antilles, je sais que la Jamaïque, elle l'avait déjà tenté, ça n'avait pas marché. Là, on veut refaire le coup, se dissocier du Commonwealth. Si, par exemple, le Canada voudrait faire pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là.
Oh non, il faut amender la Constitution, il faut changer la Constitution tout simplement. Changer de chef d'État, ça ne se fait pas facilement. Il faudrait qu'il y ait également unanimité parmi les provinces, unanimité dans les deux chambres fédérales, la Chambre des communes, le Sénat. Et ce n'est pas demain la veille que ça se ferait. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour quelque chose qui, au quotidien, ne change pas beaucoup de choses dans la vie des citoyens. L'Australie en parle depuis longtemps aussi. Puis l'Australie avait déjà été un peu plus sérieuse dans ses démarches pour abolir la monarchie. Ça n'avait pas porté fruit non plus. Donc, dans le cas du Canada, en effet, ce serait un long processus. Puis un processus... Et M. Trudeau a répondu à des questions là-dessus en fin de semaine. Il dit, on a nos énergies, on va les mettre ailleurs que sur l'abolition, sur des questions constitutionnelles en ce qui a trait à l'abolition de la monarchie au Canada. Est-ce que ça se fera un jour? L'unanimité au Canada n'est pas acquise non plus. Les provinces de l'Ouest, notamment, la monarchie demeure à un taux assez populaire, là, pas extrêmement populaire, mais l'argument anti-monarchiste, c'est-à-dire que le chef d'État vit à l'extérieur, vit à l'étranger du pays. Là. Donc, c'est un débat qui n'est pas nouveau du tout et qui va continuer d'exister. Et comme Charles sera moins longtemps au trône que sa mère, on va voir plus tôt que tard un William arriver qui, lui, va pouvoir redorer le blason de la monarchie ou, au contraire, donner une autre chance, une autre période de transition pour que ces questions-là se posent. Il reste à voir comment le règne de Charles va se concrétiser sur le plan de la modernité, sur le plan de la main tendue aux pays du Commonwealth comme le Canada. La dernière fois que Charles est venu au pays, c'était l'été dernier, il est venu à Ottawa. Il est allé en Alberta aussi également, si ma mémoire est bonne. Il était venu auparavant en 2017 pour le 150e anniversaire du Canada. Donc, Charles connaît bien le Canada, parle français également. La main tendue envers le Canada risque d'être assez importante là, au cours des prochaines années. Ça va être intéressant de suivre ce règne-là, nouveau règne qui vient de débuter officiellement. Et Camilla aussi, on n'a pas encore parlé de Camilla, Camilla qui a été... couronnée reine également.
Elle veut porter le titre de reine, pas reine consort. Ouais. Alors ça passe pas bien.
Exactement, là-bas. Mais contrairement au mari d'Élisabeth, le prince Philippe, qui est resté prince toute sa vie, qui est resté son Altesse royale, le prince Philippe, Camilla, elle, a un titre de reine consort, un titre beaucoup plus officiel, une couronne, ce qu'avait pas eu le prince Philippe il y a 70 ans également. Elle veut porter un titre supérieur Camilla a eu une longue route quand même. On termine rapidement en parlant de ça. Camilla a eu beaucoup de difficultés à se faire accepter dans la famille royale.
C'est vrai.
Donc pour elle, c'est comme une victoire personnelle, oui, mais une plus grande victoire d'être enfin acceptée dans la famille royale.
Une petite revanche. Elisabeth... On peut dire une petite revanche.
Oui, puis la reine Élisabeth, à la fin, elle dit « Ben, je suis d'accord pour qu'elle porte le titre de reine consort. » Au début, les deux, c'est pas beaucoup. On se sont apprivoisés, on finit par s'apprécier davantage.
Et si jamais on aura d'autres questions sur la monarchie, ben on y reviendra de parler, Vincent, parce que c'est toujours intéressant.
Ben, c'est toujours un plaisir. Passe une belle semaine.
Toi aussi.
Salut.
Merci beaucoup.
Salut.